aujourd'hui, donc, nous avons avant l'été notre dernier petit déjeuner et j'ai vraiment le très grand plaisir donc, d'accueillir Zvetan Todorov, donc, avec qui on a déjà à plusieurs reprises, avec lequel j'ai déjà à plusieurs reprises dialogué, et autour d'un petit livre qu'il a contribué à faire advenir, si je puis dire. Il ne l'a pas préfacé, mais il en a établi le texte, les notes, etc., les annexes bibliographiques, d'ailleurs très utiles. Tout petit livre, extrêmement, un livre charmant, si je puis dire, vraiment délicieux. Donc, Germaine Tillion, Les combats d'une ethnologue, entretien avec Frédéric Mitterrand. C'est une collection de l'école donc audiographie, une collection donc qui transcrit hein, souvent des cours, des prestations orales. Hein, et donc l'oralité d'ailleurs est très présente hein, dans les pages qui sont là. Et il s'agit en fait de deux émissions que Germaine Tillion avait enregistrées avec Frédéric Mitterrand. Son émission s'appelait Du côté de chez Fred, deux émissions du 7 et 8 mai 90. Deux émissions donc. Germaine Tillion, ce jour-là, 7 et 8 mai, est une dame âgée, elle a 83 ans. Hein, et donc elle revient sur sa vie et Frédéric Mitterrand lui dit ceci, que je trouve tout de même assez réussi. Ethnologue, résistante, déportée à Ravensbrück durant 2 ans, militante de la paix en Algérie, amie des Arabes mais patriote française également, providence d'une action politique carcérale enfin humaine. Je ne sais combien vous avez sauvé de vies et combien d'idées vous avez fait progresser. Mais je sais que vous êtes tout ce que l'on peut admirer dans ce pays. Et voilà, après quelques jours, hein, finalement, très peu de temps après la panthéonisation de Germaine Tillion, ben je crois que là, notre 8-9 rejoint une forme d'actualité commémorative. Voilà, alors la première, vous connaissez nos règles. Hein, je vais questionner un petit peu Zvetan Todorov sur cet ouvrage, sur Germaine Tillion, bien sûr. Une des choses que j'aurais, et puis disons, dans une vingtaine de minutes, je vous céderai la parole, on doit s'arrêter à 9h strictement. Et la première chose que j'avais envie de demander à Zvetan, donc, au fond, qu'est-ce qu'il pensait au fond de ce dialogue avec Frédéric Mitterrand, qui est un dialogue donc avec un non-professionnel des sciences sociales, ça change peut-être d'autres interviews faites avec Germaine Tillion. Et puis du coup, en même temps, peut-être nous rappeler le lien qu'il avait avec Germaine Tillion, le lien qu'il a établi avec son œuvre. Tu as préfacé, organisé beaucoup d'ouvrages, y compris posthumes de Germaine Tillion, hein, et notamment cet ensemble de textes que j'ai personnellement énormément aimé, Fragments de vie, hein, paru au Seuil en 2009, avec toute une série d'inédits de Germaine Tillion que tu as exhumé, organisé, commenté. Bref, voilà, sur toutes ces questions, ce que ta perception aujourd'hui de cette double interview et puis ta relation à Germaine Tillion et à son œuvre.
Merci Stéphane. D'abord sur le petit livre et son intervieweur, ce n'est pas un professionnel des sciences sociales, mais c'est un professionnel du journalisme. Et il a très bien préparé son travail. Ce qui est frappant dans cet entretien, c'est combien les questions contiennent de la matière. Il a vraiment potassé les écrits de Germaine Tillion, les résume très fidèlement. Donc, on bénéficie d'un interlocuteur très compétent. Ce qui en limite un peu la portée, c'est que ça ne dure que 2 heures, 2 heures de télévision, 2 heures chez Fred, 2 jours consécutifs. Donc, ça va un peu vite et pour l'essentiel, se concentre sur la vie de Germaine Tillion. Il faut dire que sa vie est son œuvre peut-être la plus réussie. Et en tout cas, elle est très parlante et très importante, au point qu'aujourd'hui même, enfin au mois de mai dernier, elle est introduite au Panthéon avec d'autres résistants. puisque justement on consacre ainsi sa vie. En fait, Germaine Tillion a vécu très âgée. Elle est morte à 101 ans en 2008. Et pendant les, je dirais, 25 dernières années, elle était passée à l'oral. C'est-à-dire qu'elle n'écrivait plus vraiment, mais elle s'exprimait beaucoup dans des entretiens. Donc on dispose d'un grand nombre d'entretiens d'elle qui sont souvent passionnants. Certains ont été publiés de son vivant. Elle en a fait un avec Lacouture, Jean Lacouture, également journaliste, également professionnel, qui avait fait ses entretiens sur France Culture pendant une semaine. Et ensuite, il y a eu une transcription intitulée « La traversée de la nuit », où l'on trouve aussi des formulations excellentes. Et à l'occasion de la panthéonisation, on a projeté sur la télévision nationale plusieurs films qui lui étaient consacrés, ou consacrés à elle, et Geneviève de Gaulle Antonios, qui est également panthéonisée au même moment, sur France 2, sur France 5, plusieurs enregistrements, enfin plusieurs films indépendants qui étaient remplis d'interviews de Germaine Tillion. Tellement il y en a dans les archives de l'INA, dans les trésors de l'INA. Celle-ci, cet entretien-là est un des plus réussis à mes yeux. C'est pour ça qu'on l'a choisi quand on nous a proposé d'en chercher un. Il donne une première entrée en matière excellente, c'est très vivant, elle est en bonne forme, elle est en confiance, elle a un interlocuteur qui l'admire et qui le montre, qui a étudié les textes et qui les présente très bien. Donc, comme une première introduction à l'œuvre de Germaine Tillion et la vie, c'est une très bonne formule, mais évidemment, si on veut approfondir un peu, il y a d'autres écrits, et notamment celui que tu viens de mentionner, Fragment de vie, qui est un ensemble pour deux tiers inédit que j'ai rassemblé en étudiant ses archives, parce que je me suis aperçu que dans les années 60, au début des années 60, Germaine Tillion avait eu un projet passionnant d'écrire un livre théorique sur les sciences humaines, sur l'ethnologie, qu'elle avait intitulé dans ses manuscrits « Les apprentissages des sciences humaines ». Elle en a laissé un certain nombre de pages, et ensuite, elle a abandonné le projet. Donc, le volume qui est sorti en 2009 consiste pour deux tiers en publication de ces pages inédites, donc une tentative de reconstitution de l'ouvrage abandonné, complétée par des pages autobiographiques, car c'est de ça qu'il s'agit, tirées de un ou deux livres qu'elle a publiés de son vivant.
Ah oui, justement, c'est effectivement, quand tu dis c'est une très bonne introduction, je crois que c'est exactement l'impression que j'ai eue, moi qui connais aussi un petit peu quand même ce qu'elle a fait, beaucoup moins bien que toi, mais un peu. Et à ce propos, tu parles de cet ouvrage interrompu, il y a une leçon qui est constante chez elle, qui est le prix de l'expérience vécue dans l'œuvre scientifique. Et elle dit, il y a deux très belles phrases, l'une citée par Christian Bomberger dans sa préface et l'autre un peu plus loin. Elle dit ceci: l'absence totale de participation affective à un événement est un élément d'incompréhension quasi radicale. Entre le parti pris et l'incompréhension, la porte est étroite, mais cette étroitesse fait partie du problème historique et même tout court du problème humain. Et un peu plus loin, elle parle évidemment de la période 40-45, la résistance, l'arrestation, la déportation à Ravensbrück, la mort de sa mère là-bas. J'ai affiné ma grille de déchiffrement entre 40 et 45, ma grille de déchiffrement, dans la fraternité du Grand Danger, auprès de gens de toutes origines, de toutes formations, mais qui tous avaient réellement envie de comprendre, qui supportaient des choses très dures à supporter et qui voulaient savoir pourquoi. Est-ce que... Moi, je suis presque bouleversé par cette manière de faire entrer donc l'expérience vécue dans ses aspects les plus durs. C'est essentiellement, d'ailleurs, une expérience de guerre, de terreur, d'interrogatoire, etc., dans les sciences sociales, et le retour, hein, et notamment une chose que tu m'as montré très bien dans ton propre livre sur elle, c'est par exemple le retour de l'expérience du camp sur sa compréhension de la famine des populations du sud des Aurès, donc dans les années 30, une espèce de compréhension rétroactive de ce que c'était que de mourir de faim.
Dans son livre « Combattre », Stéphane a relevé un fait très frappant, à savoir que les spécialistes des sciences sociales, de manière assez étrange, y compris quand ils ont été mis en contact avec une expérience violente et proche en nature de leur objet d'étude, ces spécialistes donc n'en parlent jamais. Il y a une forme de refoulement ou de... Enfin, on peut employer d'autres termes sans connotation analytique, mais il y a une sorte d'aveuglement volontaire, de refus d'intégrer sa propre expérience dans l'objet de son étude. Or, Germaine Tillion non seulement fait exception, et elle est l'une des rares à cette règle, mais elle est de plus quelqu'un qui a voulu théoriser, réfléchir à ce point, et non seulement a voulu exploiter sa propre expérience, mais elle affirme théoriquement, en somme, qu'il est impossible d'avancer à moins de tenir compte de son expérience. Qu'au fond, la valeur du travail commence à partir de ce moment.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une expérience, excuse-moi, je te coupe, une expérience circulaire, parce qu'elle en parle très bien, quand elle est dans les années 30, sur son terrain, donc dans le sud des Aurès, et dans des populations qui vivent dans la misère, hein, elle est à, je sais pas, 12 heures de cheval du premier poste, enfin, elle vit dans des conditions, cette très jeune femme, de précarité extrême, donc sur le plan alimentaire également, je suppose que c'était très très précaire, puis le camp, qui lui permet de... est-ce que cette expérience de précarité de la recherche lui sert ensuite dans le camp, et en même temps ensuite retour du camp vers cette précarité? C'est là qu'il y a un passage bouleversant où elle dit qu'elle comprend au camp que les gens affamés se cachent pour manger. Et pourquoi est-ce que les populations qu'elle étudiait dans le sud des Aurès donc se cachaient pour qu'on ne voit pas la déglutition? Elle comprend cette gestuelle qu'elle n'avait pas comprise. Cet aller-retour entre plusieurs expériences qui finalement se nourrissent les unes les autres.
Effectivement, donc les grands moments sont avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant 6 ans, elle fréquente un terrain dans l'Est algérien, les Aurès. En 40, elle rentre, elle fait pendant 2 ans de la résistance, elle est trahie, emprisonnée pendant 1 an, déportée pendant 2 ans, donc elle n'en sort qu'en 45. Comme elle le dit elle-même, le travail ethnologique la sert au camp. Ce travail lui sert d'une sorte de protection, parce qu'elle prend la même distance, le même au-delà de soi, dit-elle, qui lui permet de ne pas s'identifier totalement à la personne qui souffre, qui subit les coups, qui subit les privations à l'intérieur du camp. Elle est cela, certainement, mais elle est en même temps la personne qui observe et analyse cette situation. Et du coup, ça lui donne une forme de sérénité, lui permet de s'en détacher, et elle en fait profiter même ses camarades de détention, elle leur fait entre deux baraques au milieu d'un arrêt de travail suspendu pendant quelques minutes, elle leur fait des petits cours dans lesquels elle fait de l'analyse sociologique, peut-être pas sublime, mais en tout cas suffisante pour leur donner de la force.
Elle fait des conférences sur le camp.
Elle fait des conférences au camp. Elle écrit aussi une opérette qui est là également pour permettre à ses camarades de se voir comme du dehors, de rire de leurs propres conditions lamentables et donc de ne pas s'identifier totalement à ce qu'elles subissent, à jouer un double rôle. Mais moi, maintenant, je m'intéresse surtout au mouvement inverse. Ce qu'elle a tiré du camp, et elle a continué à tirer des conclusions, des conséquences du vécu, y compris pendant la guerre d'Algérie. Parce qu'au moment de la guerre d'Algérie, elle ne reste pas à la maison, mais retourne en Algérie alors qu'elle avait cessé de s'en occuper. Elle était devenue historienne du présent, écrivait sur la déportation et la résistance. Elle redevient ethnologue, en quelque sorte. Elle retourne en Algérie pour essayer de diminuer la violence des combats, pour essayer de faire baisser la tension par des différentes démarches. Et à ce moment, elle arrive à cette théorie du double apprentissage. Double apprentissage, cela veut dire que dans nos disciplines, histoire, sociologie, ethnologie, etc., on est à la fois quelqu'un qui recueille des informations, qui accumule des informations, mais aussi quelqu'un qui subit une expérience. Et en fait, c'est cette expérience qui nous permet d'interpréter les données accumulées. Elle s'est aperçue, tu viens de le rappeler, que sortant du camp, alors même que rien n'a changé dans les informations collectées sur les berbères de l'Est algérien, elle les interprète différemment. Ce ne sont pas eux ou son savoir qui a changé, c'est elle en tant que personne analysante et interprétante. Et je voudrais lire encore une phrase d'elle qui va dans le même sens que celle que tu as lue. Toute la mécanique de notre érudition ressemble aux notes écrites d'une partition musicale. Et notre expérience d'être humain, c'est la gamme sonore sans laquelle la partition restera morte. Combien y a-t-il d'historiens, de psychologues, d'ethnologues, les spécialistes de l'homme, qui, lorsqu'ils assemblent leurs fiches, ressemble à un sourd de naissance copiant les dièses et les bémols d'une sonate.
C'est magnifique.
C'est une sorte de bouleversement dans la manière de penser la connaissance, l'acquisition de la connaissance. Et la question se pose à ce moment, que tu ne me poses pas, mais que
je me pose.
Si
tu veux, oui.
C'est pourquoi diable abandonne-t-elle cet ouvrage? Pourquoi elle ne le publie
pas? Et d'une manière plus générale, pourquoi son œuvre, finalement, est restée aussi également assez largement méconnue, marginale, peu citée? Christian Auberger en parle. Elle s'affranchit beaucoup des règles académiques classiques. Il y a peut-être une raison. Est-ce que c'est son positionnement politique? Enfin bref, au fond, comme tu as dit, c'est sa vie qui est le plus réussi, plus que son œuvre. Est-ce qu'elle n'a pas réussi, au fond, l'œuvre qu'elle aurait pu, qu'elle aurait pu déployer, et en outre, ce qu'elle a déployé n'a pas été vraiment reçu. Au fond, elle est plus connue, effectivement, pour sa vie que pour son œuvre, oui. Et de son vivant, et même maintenant. Comment tu interprètes, au fond, cette sorte d'échec, tout de même?
Oui. Il y en a ça, sans doute plusieurs raisons. Mais celle qui me saute aux yeux en premier, c'est qu'au moment où elle conduisait cette réflexion, c'est-à-dire au tout début des années 60, c'est une époque qui m'est familière, parce que c'est exactement à ce moment que je suis venu en France. Donc ce n'est pas la raison du manque de succès de Germain Tillon.
Non, c'est, tu n'y es pour rien.
Je n'y suis pour rien.
Personne ne dit ça ici. Ah,
c'est... Mais je suis un témoin. Or, les années à partir, disons, de 58, et je te dirai pourquoi 58, sont le moment dans l'histoire de cette discipline de quelque chose qui s'appelle le structuralisme. En 58, Germain Tillon est élu directeur d'études à l'école de hautes études, où tu...
C'est un de nos grands noms, oui.
Professes. C'est aussi l'année où Claude Lévi-Strauss a publié l'anthropologie structurale. À relire aujourd'hui l'anthropologie structurale et ses textes contemporains de Germain Tillon, on ne peut qu'être saisi par une petite ressemblance et une énorme différence.
Une œuvre a chassé l'autre, tu veux dire ?
Je pense que le structuralisme, et Lévi-Strauss en particulier, qui dominait le domaine de l'ethnologie, a poussé cette discipline dans une direction rigoureusement opposée à celle que prêchait Germain Tillon. Lévi-Strauss multiplie dans l'anthropologie structurale les énoncés disant il faut qu'on se débarrasse de cet ennemi héréditaire de toutes nos disciplines, la subjectivité du chercheur qui ne peut s'empêcher de parler de lui-même et de ses propres opinions. Nous devons rejoindre les sciences exactes,
bien sûr,
avec la même rigueur. La linguistique structurale, science pilote, déjà parvient à se mouler dans des formes issues des mathématiques, la topologie, la science, la logique symbolique, etc. C'est notre avenir, la cybernétique. Nous allons apprendre à étudier sans que notre subjectivité intervienne.
Elle pense exactement l'inverse.
Elle pense exactement l'inverse. Non seulement c'est impossible, mais en plus n'est pas un malheur,
faux.
Ce n'est pas un défaut. C'est au contraire
une chance.
Une chance. Ce n'est peut-être pas la seule raison, il y en a une deuxième, en tout cas visible à l'œil nu. Elle est plus politique.
Oui.
Pendant la guerre d'Algérie, Germain Tillon se trouve dans une position très mal commode, parce qu'elle renonce à aider... Non, je devrais dire d'abord, elle renonce à militer pour l'Algérie française. Bon, on n'est pas trop surpris. Mais elle renonce à devenir une porteuse de valises, enfin, à souscrire à l'idéologie FLN, à suivre ce qu'une grande partie de la gauche française va considérer comme le seul comportement digne. Germain Tillon se trouve déchiré entre ces deux loyautés, son patriotisme viscéral qu'elle n'a pas perdu depuis l'époque de la Première Guerre mondiale, quand, à la déclaration de guerre, elle rêvait de s'engager en tant que chien de guerre et pouvoir, tel un Saint-Bernard, aller aider les blessés sur le lieu de leur blessure. Donc, cela. Mais d'autre part, une loyauté, une compassion, une empathie profonde avec la population algérienne où elle a vécu 6 ans avant la guerre et où elle a énormément d'amis, etc. Le résultat de cette double contrainte, c'est qu'elle décide que le but de son action sera désormais non pas de soutenir tel ou tel projet politique, mais d'essayer de sauver des vies humaines, de sauver des individus. Et donc, d'une certaine façon en continuité avec ce dont je viens de vous parler sur sa manière d'envisager la science, elle continue de privilégier l'individuel et le subjectif au détriment des abstractions.
Elle explique d'ailleurs elle que n'a c'est jamais elle qui convainc De Gaulle de renoncer à la peine de mort en particulier.
Voilà, par exemple.
Pour éviter les attentats de représailles, éviter la chaîne de la
violence. Elle essaie d'empêcher cette sorte d'enchaînement mortel qui est composé par les attentats aveugles et les exécutions. Et elle pense que si on pouvait suspendre l'un, peut-être qu'on parviendrait à suspendre l'autre. Elle y parvient pendant quelques mois. Ensuite, la logique de la guerre, la logique de ce qu'elle appelle les ennemis complémentaires, reprend ses droits et la guerre continue.
Et tu ne crois pas que son engagement contre le régime concentrationnaire, y compris soviétique, lui a éventuellement porté du tort, notamment dans toute l'intelligentsia pro-communiste
Les années précédentes, elle passait pour une gaulliste, ce qu'elle était d'une certaine manière, je dirais qu'elle était plutôt gaullienne que gaulliste. Elle avait confiance en ce personnage, et grâce à son amie Geneviève de Gaulle-Antonioz, qui est une nièce du général, elle avait pu maintenir un contact avec lui, et elle a été sa conseillère occulte au moment de la guerre d'Algérie, y compris dans ses interventions pour empêcher, par exemple, la peine de mort. Elle a obtenu la grâce de tous les condamnés à mort au moment de l'intronisation, si on peut dire, de Gaulle.
De Gaulle en 58.
À Noël 58.
Il est important de souligner qu'elle comprend, ça fait partie de cette boucle de rétroaction chez elle entre recherche et expérience, qu'elle apprend et qu'elle comprend l'existence du système concentrationnaire communiste soviétique au camp, à Ravensbrück, où elle rencontre Margaret Bubernemann, donc femme d'un communiste de premier plan, qui lui explique le système. Et donc elle comprend dans le système concentrationnaire nazi ce qu'est le système concentrationnaire soviétique, et elle ne l'oublie pas à la sortie.
Non, mais en réalité, elle le sait déjà. Parce qu'elle est une disciple de Marcel Mauss, et Mauss, qui est suffisamment anticommuniste, donc il est... se réclame du Parti Socialiste, mais avec une bonne conscience de cela. D'après les souvenirs de Germain Tillon, il parlait dans ses cours des années 30 de la famine
en Ukraine.
Qui a provoqué des millions de morts. La famine en Ukraine qui reste, je dirais, jusqu'aujourd'hui une sorte de tache aveugle, alors que c'est peut-être le plus grand crime du stalinisme en Russie. En tout cas, le plus sanglant, celui qui a provoqué le plus grand nombre de victimes. Elle garde cette information pour elle. En même temps, elle ne l'étend jamais aux communistes qui sont ses camarades pendant la résistance.
Oui, elle fait bien la distinction.
Très bien la distinction. Marie-Paul Vaillant-Couturier, qui est une figure du PC, importante, est une de ses bonnes amies, elle la cite volontiers, elle pratique la solidarité des anciennes déportées de façon continue.
Je crois que tu nous as déjà vraiment très bien éclairé, je trouve, de manière très synthétique, sur l'œuvre et sur la personne. J'ai déjà trop parlé, donc j'ouvre un peu le questionnement pour les minutes que nous avons encore avant 9h, qui veut se lancer.
Je suis juste par curiosité, vraiment sur l'environnement intellectuel de Germain Tillon dans les années 60. Je veux dire, c'est ça que j'aimerais bien qu'on m'éclaire un petit peu plus, je veux dire, sur ça. Est-ce que c'était vraiment la solitude, quel réseau en dehors de celui des anciens déportés, et quel positionnement, effectivement en dehors de l'ethnologie officielle. Enfin bon, il y a eu des historiens qui n'étaient pas pour des liens. C'est très intéressant, j'apprends beaucoup de choses et je veux en apprendre plus.
Et toi-même, tu l'as rencontré à ton arrivée en France dans les années
60? Non. Non, quand je suis arrivé en France, en fait, je suis tombé dans un milieu où j'aurais pu la rencontrer parce que c'était des jeunes anthropologues, dont bon nombre d'africanistes. Personne ne m'a parlé de Germain Tillion. Je l'ai rencontré dans les années 90, 30 ans plus tard. Entre parenthèses, un écrivain comme Romain Gary a eu à peu près un destin parallèle. Lui aussi, il était classé comme un gaulliste, has-been, s'occupe trop de raconter des histoires. Et,
des histoires de guerre en particulier.
Histoires de guerre.
Très mauvais.
Mauvais signe.
Très mauvais signe de patriotisme. De ça. Ouh là là, très mauvais, très mauvais.
Oui. Son milieu, là je n'y étais pas, mais pour ce que j'en sais, elle était assez isolée dans le milieu des anthropologues. Elle animait ce séminaire qui s'appelait Sociologie du Maghreb, ou quelque chose comme ça. Elle avait beaucoup de doctorants qui venaient du Maghreb et qui travaillaient sur la littérature orale. Pour l'essentiel, elle a écrit à cette époque un livre d'anthropologie qu'elle a publié cette fois-ci.
Cette fois, oui.
Qui s'appelle Le harem et les cousins, qui a été perçu comme une sorte de comète, enfin un objet non identifiable, parce que c'est un livre où elle plaisante librement. Elle prend des libertés, les titres des chapitres sont des sortes de jeux de mots et de plaisanteries. Elle parle de la condition de la femme en Afrique du Nord, c'est en gros le thème, mais elle parle aussi d'Euripide et de Sophocle. Elle parle de la Corse, de Dominique Fernandez et de ses romans. Bref, elle fait feu de tout bois.
Il y a un exemple extraordinaire pour expliquer les systèmes d'alliance au nord et au sud du Sahara. Elle fait un petit poème. Et le bon gars du Sahara qui veut faire plaisir à son papa doit choisir pour beau-père, non pas le petit frère de son père, mais le grand frère de sa maman. S'il vit au nord du désert, c'est le contraire qu'il doit faire. Évidemment, ça, en pleine période lévi-straussienne, si vous voulez, il y a eu un moment difficile. La réception a été difficile.
Il y a eu un moment saisissement comme ça. Oui, effectivement, elle faisait ça. Et comme elle était une ancienne déportée, elle avait une caractéristique, là je peux en parler de mes souvenirs, elle avait un trait qui la caractérisait, c'est qu'elle n'avait peur de rien. Elle était totalement insensible aux candidatons et aux normes, aux regards. Elle était totalement désinhibée. Elle... parler de la même manière à sa bonne et aux envoyés du Premier ministre qui venaient chez elle. Et elle prenait toutes les libertés dont elle avait envie. Ça ne la touchait pas que les gens ne la reconnaissent pas. Ceci étant, et je crois que Bromberger le cite, Lévi-Strauss lui a envoyé une lettre de félicitations au moment de la parution du harem et les cousins en disant « Vous avez fait ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire compléter les structures élémentaires de la parenté dans le domaine de l'endogamie et non plus de l'exogamie. » Enfin bon, c'est des grands termes. Ethnologique.
Le problème, ce n'est pas les grands maîtres, c'est les dialogues.
Mais de dialogue, il n'y a pas eu.
Oui, il n'y a pas eu.
Et je pense que moi, quand je lis, les admirateurs de Germain Tillion aiment beaucoup citer cette lettre. Pour moi, c'est une lettre écrite en coin de table en toute vitesse où il ne veut pas la blesser, il veut lui faire plaisir. Lévi-Strauss savait écrire, il avait une maîtrise de la rhétorique verbale parfaite, donc sous Sand.
Bravo. Quelqu'un veut poser une autre question, c'est qui se...
Moi, je reviens un peu sur ce matin, c'est l'école des études. Qu'est-ce qui se passait à l'école des études dans les années 60? Chacun donne son séminaire, il ne se passe rien d'autre latéralement en écologie.
Mais c'est que ce n'était pas... Je pense que les années 60, et j'en suis un témoin aussi, parce que, arrivant de ma Bulgarie sauvage lointaine, je suis tombé dans ce bain structuraliste qui ne pouvait que m'emballer. Mais l'aspiration à la scientificité était très présente dans cette époque, à cette époque. C'était pas seulement Lévi-Strauss qui faisait des sortes d'équations algébriques pour résumer la structure du mythe, mais Bourdieu, par exemple, qui était un militant du scientifique, qui plaidait pour un langage aussi dur, aussi impénétrable que possible pour assurer sa rigueur scientifique, je pense que c'est ce qui dominait. Et donc cette dame qu'on devait respecter parce qu'elle était ancienne, résistante, ancienne, déportée, on la tolérait parfaitement, mais on ne s'intéressait pas à ses incartades, à ses inventions loin des chemins battus.
Est-ce qu'elle avait des élèves français? Vous avez dit qu'il y avait des doctorants qui étaient oui. En général du Maghreb. Est-ce qu'il y a des élèves derrière dans l'université française?
Oui, la cause du jardin était celle qui a repris sa direction d'études d'une certaine manière, mais ce n'étaient pas des disciples qui aient compris, je pense, ce qu'elle apportait de neuf.
Et qu'est-ce que tu penses de la panthéonisation, finalement, de ce qui s'est dit, des discours, y compris officiels, sur... Qu'est-ce que, au fond, entre le personnage que tu as connu, dont tu as travaillé l'œuvre, etc., et le personnage panthéonisé, il y a un écart, il y a pas... Enfin, tu vois, comment tu as vécu la chose? C'est quand même assez peu fréquent, comme situation. Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus?
Je l'ai vécu... Sur deux plans, tu n'en seras pas surpris. Le premier, c'est que j'ai beaucoup milité pour que cette panthéonisation ait lieu. J'ai écrit des
c'est
tribunes...
C'est une des plus satisfaisantes de toutes ces dernières années, c'est certain.
Oui,
et les plus inattendues.
J'ai écrit des tribunes dans la presse, j'ai rencontré le directeur des monuments français qui était chargé de rédiger le rapport... présentant au président de la République quelle candidature convenait le mieux pour... Donc je l'ai rencontré pour le convaincre que Germain Tillon était la meilleure candidate possible, parce que je m'étais rendu compte que Germain Tillon, que j'admirais énormément sur plein de plans, vous l'avez compris, était une inconnue. Et il me semblait qu'il n'y avait que deux moyens pour la faire connaître du grand public, ou bien faire un film sur elle de fiction qui marche très bien, ou bien la faire entrer au Panthéon.
L'un n'exclut pas l'autre.
Mais peut-être même que l'un conduira
à l'autre.
Oui. J'ai parlé à divers cinéastes de la première idée. Personne n'a su la pousser, mais ça ne garantit rien. On avait fait un film sur Lucie Aubrac, tu te souviens?
Oui, bien sûr.
Bon, un film passe. Mais enfin, le nom de Lucie Aubrac est devenu relativement connu maintenant quand on dit... Ah oui, il y a eu des femmes dans la résistance, on dit, ah ben oui, par exemple, Lucie Aubrac. Et donc, ça n'ayant pas, j'ai pas réussi sur ce plan, j'ai poussé le second. Donc, je ne peux pas m'en plaindre. Et bien que depuis un mois, je suis à peu près condamné à des petits déjeuners et dîners et autres rencontres oui. où je dois parler de Germain Tillion, je suis très content de le faire, donc je viens à 8h du matin s'il le faut, parce que je me suis un peu reconnu dans cette tâche. Maintenant, d'un autre côté, ce qui s'est passé, je ne t'ai pas vu. Tu étais là, non ?
Moi, j'ai très mal suivi. C'est pour ça que je te pose la question.
Non, parce qu'il y avait...
J'ai mal suivi les choses.
Les tribunes devant le... On avait dressé des tribunes sous des tentes devant le Panthéon. Et je faisais partie des personnes invitées sur la tribune des personnalités. Et c'était assez drôle parce que... Il y avait des petites affichettes collées sur les bancs. Donc moi, je me suis assis sur le banc historiens et écrivains.
C'est pas déshonorant.
Avait... Non, non, c'était très bien, ça convenait bien. Mais il y avait plusieurs de tes collègues, Azema, Vinoc, je ne sais pas.
Tout ce que... Oui.
Quoi ?
Toute l'histoire mondaine française.
Bon, bref. Non, mais... Bon, des gens très respectables. Mais donc là, Germain Tillion, d'abord, au lieu de la faire entrer toute seule, on l'a fait rentrer dans une équipe de quatre, ce qui diluait un peu le glamour.
Oui, donc,
sur lequel je comptais. Enfin, elle n'était pas oubliée. Elle était comme sa vie est longue. Il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Elle avait déjà une reconnaissance en milieu résistant. C'est la résistance, en gros, qui a été panthéonisée. Donc, elle trouvait sa place. Le discours de Hollande... était rhétoriquement habile, peut-être essayant de tirer un peu trop le passé au service du présent, mais après tout, l'histoire fait toujours, et une commémoration de ce genre ne pouvait pas faire autre chose.
Et moi, j'ai poussé un petit peu plus loin, justement, puisqu'on parle de l'engagement et des affects, etc. Ton lien avec cette femme rencontrée très tard, et avec son œuvre, cet attachement que je comprends très bien, que je crois comprendre, tu pourrais nous en parler un peu plus ? Pourquoi cet investissement, au fond, hein, dans cette personne et dans l'œuvre et dans la vie qu'elle représente. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Je ne sais pas si tout est clair pour moi sur ce point. Quand je l'ai rencontrée, je trouvais simplement une personne digne d'admiration parce qu'elle était très naturelle, très simple, drôle. Elle chantait des petites chansons, elle rigolait, elle invitait mes enfants, enfin, elle était vraiment d'une extrême simplicité, tout en ayant une très bonne mémoire, donc racontant bien, et étant assez négligente quant à ce qui fait le travail quotidien des chercheurs, c'est-à-dire ses écrits. Donc je suis beaucoup intervenu, et c'est comme ça un peu que je suis devenu son proche, au cours des dix dernières années, j'ai publié un peu tous ces livres de cette époque. Je me suis occupé de ça. Mais ce n'est que petit à petit, et plus tardivement, je dirais avec ce livre « Fragments de vie » paru en 2009, que j'ai compris que ce n'était pas juste une personne que j'admirais pour ses qualités personnelles, mais que c'était quelqu'un qui m'indiquait ma voie. Et je suis persuadé par ailleurs que la pensée abstraite doit se nourrir de l'histoire et du cas particulier. Et que, à la fois parce qu'on va plus loin de cette manière, et parce qu'on permet au public, aux autres à qui on parle, de s'y projeter, de s'y introduire plus facilement, c'était la voie à suivre. Donc, elle est devenue vraiment une sorte d'étoile du Nord dans ma tête, qui me sert de repère maintenant. Un peu tardivement, tu peux me dire. Moi-même, je suis à la retraite, mais mieux vaut tard que jamais.
Nous sommes en face de la rue Bertie-Albrecht. Et je voulais savoir si ces deux grandes résistances se sont connues ou pas.
Je ne connais pas la réponse.
Je vous en prie.
Juste une observation. Ce que vous disiez sur la façon dont Germaine Tillion a utilisé son expérience au camp de la distance par rapport à la tragédie avec laquelle elle vivait, m'a fait penser à ce que Reichardt dit des Cambodgiennes dans Les Vivantes. Elles n'ont pu résister à la situation qui leur était faite qu'en prenant de la distance par rapport à leur propre souffrance, à leur propre corps.
La séparation d'avec son propre corps. Oui. Ce que tu dis est très beau sur le fait que elle n'a peur de rien, elle n'a peur de personne. Donc les conventions sociales, ça a beaucoup frappé la couture aussi. L'accueil de Germaine Tillion, nul autre pareil. Les conventions sociales, les puissants, etc. Évidemment, quand on a failli mourir 100 fois et que sa mère est morte dans le même camp que le sien, il y a toute une série de choses qui évidemment disparaissent, mais aussi elle est débarrassée aussi, ça explique peut-être ce que tu disais sur sa négligence vis-à-vis de ses propres écrits, c'est-à-dire qu'elle est débarrassée de cette forme de narcissisme très caractéristique de notre profession, et qui fait que les gens croient que ce qu'ils sont en train d'écrire est quand même plus important au monde, et évidemment elle était forcément très loin de cette sorte d'auto-investissement sur soi-même, sans doute, qui caractérise la profession.
Absolument, oui.
Et ça, c'est magnifique. Ça aussi, c'est une grande leçon.
Oui, mais je suis allé à un sens opposé auprès d'elle, et donc j'ai...
Oui, tu vois, parce qu'il ne faut pas exagérer.
Il ne faut pas exagérer. J'ai publié tout ce que j'ai trouvé. Germaine disait toujours que Camus lui avait donné ses téléphones et adresses chez sa femme, chez sa maîtresse officielle, chez les non-officiels, etc., pour qu'elle puisse le trouver à toute heure du jour et de la nuit, parce que tous les deux intervenaient pour tirer quelqu'un d'un mauvais pas, enfin, empêcher qu'il ne soit exécuté, ou torturés. Et donc ils ont très souvent intervenu l'un à l'instigation de l'autre, vraiment tout au long de la guerre d'Algérie jusqu'à la mort de Camus. Comme c'est un point intéressant, leur proximité, elle a écrit plusieurs fois aussi sur lui. Il y a plusieurs textes très intéressants, très bien. Mais ce qui m'a intéressé peut-être le plus, c'est qu'à un moment, elle exprime un désaccord. Et ce désaccord touche justement à ce que je disais de son attitude fondamentale pendant la guerre d'Algérie. Tout le monde connaît la formule de Camus, entre la justice et ma mère, etc., qui, bien sûr, n'est qu'une formule, et on sait que ce n'est pas même quelque chose qu'il a écrit, c'est juste une réponse à une interpellation au lendemain du prix Nobel. Mais Germaine Tillion dit, dans un passage, J'ai défendu des gens que Camus n'aurait pas défendus. C'est-à-dire qu'elle avait renoncé radicalement à porter des jugements sur les engagements des personnes qu'elle voulait sauver. Et elle pensait que pour Camus, il y avait des limites qu'on ne pouvait pas traverser, qu'on ne pouvait pas dépasser. Qu'il ne suffisait pas de dire il est menacé par la peine capitale. Il fallait quand même que ce soit quelqu'un de digne d'être sauvé. Pour Germain Tillion, tout être humain était digne d'être sauvé. Il n'y avait pas de limite. Et dans l'un des entretiens que j'ai revu là ces jours derniers, parce qu'il y a tous ces films qui sortent sur elle, elle dit un peu en souriant comme ça, elle raconte comment elle est intervenue pour les gens, puis elle sourit de façon un peu malicieuse et elle se tourne vers la personne qui l'interviewe et dit « Est-ce que je devrais le dire ?» Puis elle dit « Je vais le dire. » Je suis intervenu aussi pour les assassins de l'OAS. Alors que ça l'avait énormément touché quand les inspecteurs des centres sociaux ont été massacrés en mars 62, à 2 jours des accords d'Évian. Mouloud Feraoun et 3 Français et 3 Algériens avaient été tués par l'OAS. Elle a écrit plusieurs fois là-dessus. C'était un crime complètement gratuit à cette époque-là. Mais effectivement, elle est intervenue auprès de De Gaulle, y compris pour tirer des gens de prison ou en tout cas de leur sauver la vie. Quel que soit le jugement. Donc c'était une sorte de radical sur ce point de vue. Peut-être un peu plus radical que n'était Camus. Pour vous dire encore une chose un peu inavouable, elle trouvait que Papon, sa place n'était pas en prison. Elle était hostile à l'emprisonnement de Papon, alors même qu'elle était une résistante, etc. Mais elle trouvait que 50 ans après les faits, il ne fallait pas mettre les gens en prison, même s'ils étaient très coupables.
Vous avez une opinion sur Bousquet ?
Elle ne l'a pas écrit, en tous les cas. Sur Papon, je me permets de le dire parce qu'elle l'a mis dans des entretiens qui ont été publiés.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'écho de la panthéonisation, en dehors de l'événement lui-même, ce qui est revenu vers vous, est-ce que c'est ce que vous attendiez, c'est quelque chose qui vous a surpris?
Comme d'habitude, il y a eu des choses bien et d'autres moins bien, plus ou moins précis. J'espère que ce n'est pas fini et que cette introduction au Panthéon, c'est en somme la deuxième femme qui entre au Panthéon après Marie Curie, va attirer l'attention davantage sur cet exemple, qu'on va la lire davantage, que son nom, comme celui de Pierre Brossolette, sera donné à plus de rues. Parce que pour moi, Pierre Brossolette, ignorant que je suis, jusqu'à récemment, n'était qu'un nom de rue. Mais dans toutes les villes de France, il y a une rue Pierre Brossolette. Je trouve que Germain Tillion mérite largement ça.
pas le Pérou seul, Jean Zé, ça, il y a eu une petite, c'est là où il y a eu une petite polémique, c'était sur Jean Zé.
Oh, oui, il y avait une petite polémique, mais... Enfin, c'était pour savoir s'il n'avait pas critiqué trop fort son pays, etc. Je pense que la période de Jean Zay qui était visée par la panthéonisation, son comportement en 40, son long séjour en prison, l'acharnement de la milice pour l'assassiner à la fin, en faisait une figure suffisamment digne, noble. Mais presque tous les personnages suscitaient une polémique parce que chacun avait son candidat. Vous vous souvenez aussi, dans la presse, il y a eu des gens qui étaient justement contre Pierre Brossolette parce qu'on trouvait qu'il était trop proche du... oui, que Jean Moulin était déjà au Panthéon, mais que d'autre part, Jean Moulin avait été trop proche du Parti communiste et que donc on mettait Pierre Brossolette pour affirmer quelqu'un qui ne correspond, enfin qui n'est pas lié au PC, que ce n'était pas une raison suffisante, etc. Non, mais je crois qu'il y a une grande part d'arbitraire dans le choix. Et choisir quatre personnes sur des milliers, morts et vivants. En tout cas, je trouve que Germain Tillion, par son activité résistante, ne méritait pas peut-être d'être distingué plus qu'un autre, mais par la durée de son engagement dans sa vie publique, par la qualité des leçons qu'elle avait su tirer de cette expérience, elle est là vraiment exemplaire. Et mérite pleinement cette place.
2009, elle est décédée en 2009.
Elle est décédée en 2008. Elle est née en 1907, donc elle a vécu 101 ans, exactement comme Lévi-Strauss, qui est né en 1908 et qui a décédé en 2009. Donc, 100 ans et 11 mois, tous les deux, deux personnes qui, enfin, je ne veux pas accabler Lévi-Strauss, qui a écrit aussi des choses très bien, mais c'est très frappant quelle leçon opposée il tire de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que Lévi-Strauss eu la chance d'émigrer et à passer la guerre aux États-Unis, à découvrir la linguistique structurale et à enseigner à l'école des hautes études, pendant que Germain Tillion était à Ravensbrück. On revient pas à la même personne. Alors que c'était des admirateurs de Mauss, enfin, ils auraient pu suivre le même chemin s'il n'y avait pas eu la guerre.
Pour revenir un instant sur la postérité intellectuelle de Germain Tillion aujourd'hui.
Eh bien, en anthropologie, c'est le préfacier de ce petit volume, Christian Bromberger, qui est un anthropologue reconnu et de bonne réputation, qui vient de prendre sa retraite à l'université d'Aix en Provence, où il a professé pendant des années, qui est un spécialiste de plusieurs domaines. Donc, bon, c'est lui le principal héritier aujourd'hui de Germain Tillon, ethnologue. La Germain Tillon historienne, son travail est repris, absorbé, utilisé. Mais je pense que Stéphane peut tout à fait se réclamer de Germain Tillon, puisqu'il s'est accordé une place à l'expérience, ce qui est la grande leçon, en fait, de Germain Tillon. Et donc, sinon, moi-même, je me sens maintenant comme un suiveur de... un lecteur de l'héritage de Germain Tillon.
En fait, comme question que je vais poser, c'était aussi, du point de vue théorique, cet ouvrage théorique qu'elle n'a pas achevé, aujourd'hui, est-ce qu'il a, dans son existence potentielle, est-ce que dans l'évolution des sciences sociales, il y a une...
Je crois qu'il y a eu effectivement une évolution. Les ethnologues ou les spécialistes de sciences sociales n'ont pas à ce point attendu que Germain Tillon dise certaines choses. Et donc particulièrement en ethnologie, il y a eu une vague d'auteurs américains, anglais, ailleurs, qui ont thématisé ce même sujet de l'importance de l'expérience, de la place de l'ethnologue dans le circuit de connaissances. Et aujourd'hui, entendre ce message est beaucoup plus facile que dans les années 60, il y a 50 ans. Mais spécifiquement, la publication du livre, je ne suis pas sûr que cela ait provoqué un bouleversement.